Tu veux un essai pour Rosé?
Yeah, one two, one two.
France Culture.
Yeah, I'm Rosé. Encore ou?
C'est pas ça, Alex.
Oui, donc bah, voilà.
Le book club.
Bah voilà, pour moi le café est une soupe, je peux en boire toute la journée, il n'y a pas de problème, je suis insensible à la caféine.
Voilà, ouais, je me suis rendu insensible à la caféine. Donc,
Est-ce une bonne nouvelle?
Ben ouais, parce que j'ai lu un article récemment, bon après...
Dans la bibliothèque de Rosset.
Qui se contredisent, on peut dire quand même.
Mais là apparemment c'est bien de boire plein de café.
Ok, c'est super, je suis ravie.
Voilà, c'est un article du MEDEF.
Marie Richeux.
Non, je rigole.
Certains, certaines dont je fais partie ont connu un premier accès à la poésie, à une forme de littérature par le rap et la chanson populaire française. Cela dès le plus jeune âge. Parmi nous, il y en a même qui ont été ensuite empruntés des livres à la bibliothèque parce qu'ils étaient cités dans des morceaux. Vos morceaux, par exemple, Rosé, ont pu nous rendre curieux, curieuses des livres de Frantz Fanon, de Léon Contran Damas, d'Aimé Césaire ou de Pierre Bourdieu. Un grand aller-retour fructueux se créait entre la musique qu'on écoutait, les livres qu'on lisait et la musique qu'on réécoutait un peu mieux après. Dans votre dernier disque, quelqu'un, c'est peut-être vous, dit « J'ai lu plein de livres, tourné plein de pages, pourtant incapable de tourner la mienne ». Alors on a eu envie de vous demander de déballer votre bibliothèque pour le book club. Rosé, dans ce même dernier disque, la théorie est toujours une arme, la poésie en est toujours une autre, et avoir les mots est la condition sine qua non pour servir ses rêves et ses aspirations politiques. Alors merci beaucoup d'avoir apporter un petit peu de votre bibliothèque dans notre studio. Bienvenue chez
merci.
Vous, du coup, c'est un peu chez vous.
Oui, merci beaucoup.
Vous avez une manière toute particulière d'empiler vos bouquins. Je pense qu'il faut vraiment la décrire avant toute chose. Jusqu'à maintenant, quand on va chez les gens ou quand les gens viennent chez nous pour déballer leur bibliothèque, ils font des piles, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment les piles. Et vous, eh ben, c'est comme une sorte de petite pyramide de livres.
Ça fait un peu un tipi, en fait.
Voilà. C'est ça.
Donc, il y a un livre ouvert, par-dessus un autre livre ouvert, par-dessus un autre livre ouvert, bien sûr ils sont de dos et voilà, on pourrait dire une pyramide ou un tipi.
Parfait. Donc on est avec une pyramide de livres. Qu'est-ce que ça vous fait d'être près de ces livres-là? Est-ce que ça vous fait justement vous sentir un petit peu chez vous?
Oui, parce que forcément, qu'est-ce qu'on est si on n'est pas nos choix? Si on n'est pas nos choix, nos goûts. Donc, j'ai ramené ces livres-là, donc effectivement, ça fait partie de moi.
Ça fait partie de vous, c'est-à-dire que c'est plus vous que chez vous, d'une certaine manière.
Disons que c'est mes choix. C'est je pense qu'on peut voir au livre que j'ai choisi ce que je pense du monde. On dirait ça, c'est-à-dire que voilà, si on peut voir les gens avec leurs habitudes, on voit un peu ce qu'ils sont, à leur démarche, à leur manière de parler, à plein de choses. Et puis il y a aussi ce que eux ils ont choisi de montrer au monde. Et si j'ai choisi ces livres-là, ça veut dire aussi. Ça montre aussi ce que j'ai envie de revendiquer.
Alors, on va reprendre les choses comme d'habitude ici par le début. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire?
Franchement, appris, non, je dirais que c'est à l'école, comme tout le monde. En tout cas, où j'ai aimé à lire, ça s'est fait assez tardivement. Ça veut dire que, peut-être le premier livre que j'ai voulu vraiment lire, c'était le livre de la jungle.
Mais vous êtes enfant?
Ouais, je suis enfant. Et puis, moi, ce qui est compliqué, c'est que je veux surtout finir un livre pour avoir la fierté de dire que je l'ai fini. Donc, je vais sauter des pages. Même si je comprends pas l'histoire, c'est pas grave, en fait. Parce que ce qui compte, c'est, voilà, il y a des images, mais surtout, je saute des pages. Et là, autour de moi, les gens sont dans l'incompréhension. Oui, mais si tu sautes des pages, tu lis pas vraiment le livre. Oui, mais c'est pas grave, je pourrais dire que je l'ai lu, j'ai sauté des pages. Et puis, par contre, vraiment, la compréhension de ce que c'est que lire un livre, ça, c'est arrivé très tardivement. C'est arrivé avec un livre que j'ai ramené, c'est arrivé avec celui-là.
Donc on va en parler tout à l'heure du choix de livre, mais je reste un petit peu sur ce temps de l'enfance. Est-ce que vous grandissez dans une maison ou dans des maisons où il y a des livres, Rosé?
Alors oui, moi je grandis dans une maison où il y a beaucoup de livres. Déjà moi je grandis de 0 à 4 ans, ça compte aussi à Blida en Algérie, où mon grand-père, le père de ma mère, est imam et lui en fait il écrit. Sur des ardoises en bois, en fait, il écrit des versets de Coran. Et moi, c'est ce souvenir qui est très marquant parce que c'est faut voir faire. En fait, c'est écrit à l'encre de Chine. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Grandir avec quelqu'un qui écrit tout le temps.
C'est un
fait.
Vrai souvenir ou c'est un souvenir recomposé?
Non, c'est un vrai souvenir parce que nous, on est toujours avec lui, on est toujours posé à côté de lui, autour de lui, et c'est un vrai souvenir. Les ardoises, j'en ai encore. Donc voilà, et puis après, arrivé en France, effectivement, beaucoup de livres à la maison, qui sont pas forcément des livres que on va lire, mais c'est des livres qui sont avec nous, c'est-à-dire qu'avec des noms que j'ai découvert par la suite, moi, dans le rap ou dans d'autres choses. Un nom comme Frantz Fanon, en fait, c'est un nom qui est dans mon étagère. Le nom est dans mon étagère. Le livre est dans mon étagère. Par contre, je lis Frantz Fanon beaucoup plus tard, en me disant « Ah, mais c'est marrant, il est dans mon étagère. » Donc,
qui lisait Frantz Fanon pour qu'il soit dans l'étagère ?
Personne, mais c'est un livre qui a accompagné mes parents parce qu'ils l'ont connu, parce qu'en fait, ils font partie d'un mouvement, on va dire, du mouvement décolonial, révolutionnaire, d'émancipation, etc. Et puis, eux, ils vont pas dire « Lis ce livre » parce que j'ai pas une éducation politique, en réalité. C'est juste, en fait, ça les accompagne et ça tapisse les murs. Et par contre, je découvre... pas forcément tôt, j'ai pas un réveil politique qui s'est fait très tôt forcément, mais quand je découvre ça, je me dis mais ça faisait partie de moi parce que ça tapissait les murs.
Quand vous voyez les livres sans les lire, vous diriez que ça infuse quelque chose, que ces noms justement que vous allez ensuite peut-être entendre. Moi, je citais cette expérience, c'est-à-dire qu'il y a des lectures que j'ai faites après les avoir entendues dans certains morceaux. Vous avez vécu quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça?
Ouais, clairement. C'est-à-dire que je comprends le monde à travers la musique, moi, pas à travers la littérature. Et en fait, les livres qui m'entourent chez moi, en fait, viennent confirmer ce que j'apprends à travers la musique. Moi, j'ai fait des études d'électrotechnique, j'ai pas fait des études littéraires. Et par contre, quand j'ai arrêté ces études d'électrotechnique, je suis allé en sociologie. Et là, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez tardivement, c'est là que tout vient se confirmer et que c'est comme si un puzzle, en fait, se finissait, comme si quelque chose se reconstituait.
Donc les livres que vous découvrez pendant les études de sociologie viennent renforcer quelque chose qui était une lecture du monde politique préalable, mais venu de la musique ?
C'est ça, quelque chose qui était latent, c'est-à-dire que sur un ressenti, sur des émotions, sur quelque chose, on va dire, qui est pas palpable, je commence à mettre des mots.
Et qu'est-ce que ça change ?
Disons que ça donne une assurance. Je le dis par rapport, par exemple, à un morceau que j'ai qui s'appelle Habitus. Une fois que je comprends, moi, à 20 ans, ce que c'est que l'habitus, ce que ça veut dire et ce que ça définit, je comprends qu'un mot englobe un énorme ressenti que j'ai pu avoir et qui m'a traversé pendant toute mon adolescence. Et ce mot-là, j'ai l'impression que je peux enfin le mettre dans ma poche et que je peux le sortir quand je veux, parce que j'ai une définition. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un morceau, parce que je me suis dit, si moi j'ai réussi à comprendre ça, j'ai envie, sur un morceau de 3 minutes, de pouvoir diffuser ça. Et résultat, ça a fini dans le programme de SES des éditions Hachette, où en fait mon morceau en fait partie, parce que c'est une sorte un petit peu, je dirais, de morceau qui va définir un peu ça de manière assez, on va dire, assez ficelée.
Avant de commencer à lire ou d'avoir justement cette espèce de rétro-éclairage par les livres à partir de 20 ans, vous avez quoi comme rapport aux mots ?
Disons que c'est vraiment un rapport musical, c'est-à-dire que ma sensibilité du rap se fait par le rap français, parce que justement il y a une cadence et il y a des rimes, parce que ça raconte quelque chose, mais quelque chose qui est complètement extrascolaire. Ça sort de la rédaction ou des choses qu'on va nous demander à l'école. Et puis après, le rap américain, avec certains textes en fait qu'on me traduit, et où je comprends en fait qu'on peut aller très très loin dans l'émotion, en disant des choses assez courtes ou des choses assez, on va dire, ficelées sur un morceau de 2-3 minutes. Je pense notamment à Gangstar ou à d'autres groupes comme ça, en fait, qui ont réussi à ramener vraiment des concepts de texte, de rime, etc. Et pour aller plus loin, qui ont même réussi à ramener un côté assez cinématographique dans leur écriture. Et moi, c'est ça, en fait, qui me pousse à écrire et qui me donne même envie, peut-être de temps en temps, de lire autre chose.
Et alors, puisque c'est extrascolaire, ça veut dire que tous les livres qu'on vous met dans les pattes à l'école ou par l'école sont des livres qui n'arrivent pas jusqu'à vous, que vous n'aimez pas lire, que vous rejetez ?
Après ça, c'est... Oui, mais ça, après, c'est personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un rejet de ce qu'on nous a forcément donné à l'école. C'est juste que moi, c'est tardivement que j'apprécie de lire et j'apprécie pas la lecture par des livres faciles.
C'est ça qui est paradoxal, ouais.
Ouais, j'apprécie la lecture par des livres de sociologie, des livres politiques.
Livres de poésie dont on entendra parler tout à l'heure, voilà. Et qui sont vraiment loin d'être des livres hyper accessibles, très ouverts. Au contraire, c'est des livres ardus.
Ouais, clairement.
Ça veut dire qu'il y a un chemin qui petit à petit se fait dans les livres, dans la lecture. Et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes quoi comme lecteur ?
C'est une bonne question, je sais pas. Parce que moi, je lis de tout, en réalité. J'ai fait le choix que j'ai fait, mais j'ai hésité. avec des mangas, j'ai hésité avec des BD, j'ai hésité avec pas mal de choses en fait. En réalité, je suis quelqu'un qui cherche à apprendre de tout. En réalité, je ne mets pas de hiérarchie dans ce qui va m'apprendre des choses, parce que surtout voilà, quand on a une vision artistique, on se dit que l'art c'est ça transmet, et que quel que soit le format artistique, il est là pour transmettre. Et donc du coup, que ce soit d'une BD, que ce soit d'un manga, que ce soit quel que soit le format de livre, le genre de livre, ça peut aider.
Ils sont où les livres chez vous ?
Ils sont un peu partout, surtout dans le salon, mais en vrai il y en a un peu partout. Il y en a toujours un qui traîne dans mon sac à dos, un dans une poche. Enfin bon, voilà, ça fait partie de la vie, je ne les range pas. Enfin, pour moi, ça fait partie des vibrations. Hein. C'est un peu comme la musique, si on commence à tout bien ranger, à tout ficeler, il n'y a plus de vibrations.
Est-ce que vous partagez la lecture avec des gens autour de vous ? Est-ce que c'est cette activité solitaire et aussi une activité qui se discute, qui se partage, qui se transmet ?
Ouais, bien sûr. C'est surtout quand je vais finir un livre. Quand on finit un livre qui nous a appris des choses, on a envie de le dire. Et dire, ouais, j'ai appris ça dans ce livre-là. J'ai appris ci, j'ai appris ça.
Mais aux amis ou dans les morceaux ou ça comment ça transpire jusqu'à votre musique ?
Non, c'est surtout aux amis. Parce que par rapport à la musique, j'ai un rapport qui est différent. Je considère que la musique, ça doit rester quelque chose de spontané. Et que si lire un livre, c'est pour en fait essayer ensuite d'en faire un résumé dans un morceau, ça marche pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que ça marche.
On va écouter un extrait de votre dernier disque qui s'appelle Le Niveau.
Violence symbolique, je n'ai pas les mots. Je n'ai que les armes, j'ai beaucoup d'insultes. Crois pas que je suis un culte, je te tire dans le dos. Je revends ton âme au premier coin de rue. J'ai connu le pire, j'invente le meilleur. Sorti de ma tête, tout droit vers la gloire. Qui cherche à me nuire, connaîtra l'aigreur. Je connais pas la fête, je connais la victoire. J'ai lu plein de livres, tourné plein de pages. Pourtant incapable de tourner la mienne. Riche en théorie, j'ai cassé la cage. Rien n'est incassable pour toucher les rêves. Je suis dans la faune, Vectrica. Le problème c'est vous, je vous ai semé. Je n'ai pas de trône, je peux pas être assis. Mon corps est debout, mon poing est levé. Évitant la merde, je chute les mégots. Préparant la guerre, sans aucune égo. Apporte la carrière, apporte les rivaux. Apporte le salaire, j'apporte le niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. J'agrippe Pôle emploi et je suis pas tendu. Je gratte pas l'état, je récupère mon dû. Laisse tomber les rois sur le jeu d'échecs. La reine n'est pas là, je crois qu'elle défèque. La vérité meurt, souvent elle sonne faux. Souvent les meilleurs, ils sont pas Jon Snow. J'ai coincé mon pied, la porte ne ferme pas. On va tous rentrer comme dans une garpa. J'ai fermé les yeux, la main sur visage. Sauf que j'ai triché, j'ai écarté les doigts. J'ai vu leur manège, le sujet qui fâche. Les gens d'Élysée, esquiver les lois. Je suis pas le parrain, j'ai rien à t'apprendre. Dans ce jeu malsain, y a plus rien à vendre. L'espoir à la main, j'ai à quoi m'attendre. Rêve pas d'Africain pour mettre à l'amende. Alors ça dit quoi ? Ici de surpoids, conscience de surpoids, trop de somme sur toi. Apporte la carrière, apporte les rivaux, apporte le salaire, j'apporte le niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Rosset. Marie Richeux.
Rosset, celui qui rappe, c'est pas toujours celui qui parle. Il peut y avoir une différence entre celui qui dit je et celui qui écrit. Mais quand même, dans ce disque, il est question d'avoir lu plein de livres, tourné plein de pages et de pas réussir à en tourner une personnelle. Et évidemment, dans une émission qui s'appelle le Book Club et dans une émission qui est consacrée à des portraits de bibliothèque, c'est une phrase qui fait tilt. Est-ce que c'est une phrase qu'on peut vous prêter ?
Bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que, il y a une différence entre la théorie et la pratique. On peut lire énormément de choses, connaître énormément de choses, mais pas réussir à les mettre en place dans la pratique, dans sa propre vie.
Est-ce que c'est indiscret de demander quelles pages vous réussissez pas à tourner, même après avoir lu certaines pages importantes ?
Disons que écrire une phrase comme ça, c'est un peu montrer. Moi, j'ai pas sorti d'album depuis 10 ans. Donc là, c'est le premier que je sors. Voilà, en 10 ans, j'ai mis 10 ans.
C'est vrai qu'on
le faire.
On pense à un autre projet qui s'appelle Parler d'années de la Terre, mais c'était plutôt un projet de recherche
c'est
où
ça,
vous travailliez toute une chanson plutôt du protest son, de la chanson révolutionnaire, mais c'était pas vos chansons.
Exactement. Et en gros, ça veut dire un truc, c'est que pendant 10 ans, j'ai mis mon ego de rappeur de côté pour être sur des projets, on va dire un peu plus ouverts sur d'autres personnes, sur d'autres choses, et je trouve ça assez sain, en vrai, ça m'a fait du bien de le faire. Mais en fait, sortir un projet, être dans l'action, c'est être aussi dans des stratégies d'action, dans des stratégies de mouvement. Et il y a une différence entre être dans des stratégies vraiment de théorie et des stratégies de mouvement. C'est-à-dire que quand on va sentir que quelque chose va se passer, en fait, on peut changer du tout au tout nos plans. Dans des manières de réfléchir. C'est comme si on joue aux échecs tout seul et on joue aux échecs tout d'un coup avec quelqu'un. C'est pas du tout la même chose. Et quand on s'entraîne pas à être en mouvement, on perd un peu ses stratégies de mouvement. Et donc, c'est un peu ça, moi, qui s'est passé en 10 ans, en fait, de carrière artistique sans faire d'album. Et ben, j'étais pas dans la stratégie de mouvement. Donc, voilà, là, c'est tourner une page, c'est de m'y remettre.
Je dis toujours qu'il y a quelque chose dans vos morceaux qui clame l'idée que avoir les mots c'est une force, avoir les mots c'est une arme, avoir la théorie c'en est une autre, avoir la possibilité d'avancer avec sa sensibilité, avec sa poésie c'en est encore une autre. Vous parlez de mouvement comme presque d'un art de combat, vous diriez que c'est ce genre de jeu qui se joue là, Rosé ?
Ouais, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce que je dis aussi dans un morceau, c'est que voilà, les mots c'est une guerre en fait. C'est une guerre. Et les maîtriser, ben, c'est s'armer par rapport à cette guerre. Donc, dit comme ça, ça fait un peu ballot.
Ou ça fait belliqueux.
Voilà. Mais en réalité, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours. C'est-à-dire que, en fonction des mots qu'on va utiliser, on va voir le regard des autres. Les mots disent beaucoup sur nous. Ils disent d'où on vient, en fait. L'accent. Parce que, à la lecture, il n'y a pas l'accent. Quoique, certains auteurs arrivent à mettre l'accent dans leur manière d'écrire. Mais dès qu'on parle, on montre d'où on vient. Et donc ça, c'est assez important, c'est assez intéressant pour se dire, bah voilà, s'armer, c'est décider d'assumer où on vient, ou alors décider de pouvoir être caméléon, de pouvoir se mettre un peu partout. Mais tout ça, c'est important.
Et vous, votre façon de jouer ce jeu-là avec les mots, Rosé, c'est décider d'utiliser les mêmes mots que peut-être ce que vous combattez, ou décider d'en utiliser d'autres. Je me rappelle d'une émission qui est restée chère à mon cœur avec un rappeur qui s'appelle Virus et qui disait « Laissez-moi parler la langue de la vie que je mène. » Et c'est quelque chose qui me semble une question très politique, en effet. Vous décidez de le jouer comment, ce jeu-là ?
D'être un peu tout. Mais d'être ce que je veux quand je veux, en fait, surtout. Dire que je pourrais... j'ai beaucoup pensé à la phrase de Kateb Yassine, la langue du vainqueur est... Se l'approprier, c'est un butin de guerre.
C'est un butin de guerre, parlant de la langue française.
Voilà. Mais en fait, tout va dépendre. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Et moi, en fait, j'ai pensé à cette phrase-là quand je faisais Parler d'années de la Terre, où en fait, je faisais un recueil, donc je compilais des morceaux des luttes ouvrières et des luttes d'émancipation, des luttes décoloniales, etc. Mais ça me tenait à cœur de le faire, de trouver des morceaux qui sont en langue française. Et donc, je me suis posé cette question-là. Donc, en fait, ça va dépendre des contextes. Là, le contexte faisait que c'était intéressant. Parce que ce qui peut créer des ponts entre quelqu'un comme Ho Chi Minh, quelqu'un comme Jean-Marie Tjibaou, Nouvelle-Calédonie, et quelqu'un qui est au Congo, et quelqu'un, en fait, c'est qu'il y a une langue commune qui est la langue coloniale. Et ils se battent contre le colonialisme. Et donc, en fait, ça va être quelque chose, en fait, il n'y a pas une règle figée sur quelle langue on parle et comment on la maîtrise. Moi, j'estime que maîtriser la langue française, de là d'où je viens en tant que rappeur, de la génération dans laquelle je suis, etc. C'est aussi montrer l'étiquette qu'on veut me donner, la renvoyer dans la gueule de ceux qui veulent me la donner, avec de la dignité. Voilà, dire en fait, Kaira je veux bien, mais avec du génie. C'est une manière de dire ça pour reprendre un rappeur qui s'appelle The Taylor T. Et donc en fait, chacun va trouver sa manière d'avoir sa dignité par rapport à ça, et moi ça c'est ma manière d'avoir la mienne.
Est-ce que vous diriez que de toute façon, à jamais votre rapport à la langue française, pour tout ce que vous venez de dire là, Rosé, il ne sera jamais complètement apaisé ?
Non, mais je ne cherche pas à avoir
un rapport apaisé.
Un rapport apaisé, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'idée.
Parce que quoi ? Parce que c'est fertile, justement, que l'idée de la conflictualité dans la langue qu'on utilise, c'est
quelque
chose.
Non, mais c'est parce
est...
que le combat, il y a quelque chose peut-être de, dans le mot combat, quelque chose de péjoratif. Alors, je dirais peut-être le mot lutte, mais la lutte est constante. Moi, c'est comme je disais là dans le morceau Le Niveau, j'ai pas de trône parce que je suis debout. Je suis debout, le poing levé, et pour moi, la langue fait partie de ça. La langue est vivante, sinon elle serait... Enfin, si on me donne un fauteuil, je m'assois et on sait une langue morte, quoi.
Et on donc, s'endort.
Voilà, on a besoin de la faire vivre et de la faire vivre dans ses dualités, dans ses complexités. Et on a besoin aussi de se l'approprier pour en faire autre chose. Et voilà, et de dénoncer le fait que bon, bah, la langue, elle soit dans ce pays, faite de manière pyramidale, où le centre, ben, ça va être Paris, une ville qui n'a pas d'accent.
Soi-disant.
Sauf pour les autres. Et Paris qui va décider de qui a un accent ou pas. Donc, en fait, il y a énormément de choses à dire sur la langue. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une lutte et c'est une analyse. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un... Enfin, il y a surtout... J'ai surtout pas envie d'avoir un rapport apaisé.
Ce serait arrêter de penser, en fait,
exactement,
d'avoir un rapport
exactement.
Apaisé.
Exactement. Il n'y a aucune volonté à ça, quoi.
Est-ce que ça vous a donné de la peine? Est-ce qu'il a fallu du temps pour choisir 5 textes pour déballer votre bibliothèque, Rosset?
Franchement, oui. Parce que, je vais pas mentir, il y a plein de choses. En fait, on se bat avec l'idée de se dire, bah, franchement, j'ai pas d'idée. Et de se dire, ouais, mais en fait, si, j'ai envie de mettre ça et ça et ça. Et puis, en fait, entre se dire, bah, en fait, il y a qu'un livre ou deux. Et puis, on a, en fait, non, peut-être 15. Et de se dire, en fait, il n'y a pas d'équilibre. C'est ça le problème avec trouver 4 ou 5 livres. Pas d'équilibre. Après, est-ce qu'il faut trouver un équilibre? Non, c'est un moment. Donc voilà, j'ai trouvé ces livres-là, c'est ceux aussi sur les premiers sur lesquels je suis tombé dans ma bibliothèque. C'est des moments, il y en a que j'avais vraiment envie de mettre, d'autres je me dis, ben, il ira bien avec. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi.
Un premier livre qu'on n'a pas trouvé dans la bibliothèque de Radio France, ça vous a rendu fier, c'est La guerre des Gusses de Georges Mattei. C'est un livre qui est paru en 1982 chez Ballant, qui a été réédité en 1995 en poche aux éditions de l'Aube, qui n'est pas facile à trouver, mais que vous avez, vous, dans votre pyramide de livres. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous l'avez choisi?
Bah, il fait partie de ces livres-là qui m'ont donné envie de lire. Voilà, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont parler, enfin, même moi, autour de moi, beaucoup de gens dans mon adolescence qui me parlaient de l'autre braqueur, là, je sais plus comment il s'appelle.
Mérine.
Voilà. Moi, mon Mérine, ça serait Georges Mattei, parce que avec un côté politisé et humaniste. Et donc Georges Mattei, c'était qui? Donc c'était quelqu'un, en fait, que mon père a très bien connu, que mon père a formé pour faire des faux papiers. Et en fait, Georges Mattei, donc c'est quelqu'un, en fait, qui est d'origine corse, qui a grandi en France, qui était un, on va dire, quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un qui était qui aimait la violence. Et en fait, qui a connu une violence qu'il a détestée, c'est celle de la torture en Algérie. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a rejoint le FLN de cette manière-là. Il était appelé pour être militaire, pour aller en Algérie. Et là-bas, en fait, il a, quand il a compris, en fait, quand il a vu, surtout, ce qu'il a vu, c'est quelque chose qui l'a assez traumatisé. Et il s'est dit, ben, que son appétence, en fait, pour l'action serait du côté du FLN. Il a rejoint le réseau Curiel, le réseau Janson. Et voilà.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait?
Bien sûr. C'est dégueulasse de souhaiter la victoire des Boches. C'est comme toi. T'es pour les bougnoules. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que t'as trouvé chez ces mecs-là? C'est à cause de ça. Nonos montre son corps souillé et meurtri. La torture, tu veux dire? Tu te souviens pendant la guerre? Les Boches et la résistance? Eh bien ici, les Boches, c'est nous. J'entrave rien à tes déconnades. T'es foutu, mec. Les trois mousquetaires, ils vont remettre ça jusqu'à ce que tu causes. Et quand ils t'auront bien fadé, ils te finiront. Passe-moi le papier et le crayon. Je vais écrire ma lettre, moi aussi. Tu l'enverras à un pote à moi qui crapahute quelque part dans le Djebel. J'ai ta parole? Magne-toi. Nonos écrivit. Salut, gros. Je suis dans une prison secrète des dopes. Je pense qu'elle est située près du Grand Môle. Un de mes bourreaux est sergent-chef. Les autres l'appellent Charlemagne. Il porte une décoration allemande. Il y a aussi un serpent de brun, aux yeux bleus, accent de Paname, gueule de Mac. Ses complices le nomment Rodriguez. Je pense que c'est un pseudo. Je le vois assez fils d'anard espagnol. Il y a encore un adjudant, un type du sud-ouest, genre deuxième ligne de rugby, et enfin le capitaine, une espèce de mâle blanc. Ici, l'équipe est connue pour son sadisme. Les Gus les ont surnommés les trois mousquetaires. J'ai été donné par le responsable politique de la ville. À présent, j'en suis sûr. C'est à cause de mes liens avec Mehdi Bougie dont tu as dû entendre parler par la presse. Je crois que mes vacances en Bougnouli vont bientôt s'achever. En somme, ils vont me libérer. J'essaye bien de me convaincre que j'aurais pu mourir d'un cancer comme ma mère, ou bien renversé par l'autobus numéro 27 en traversant en dehors des clous Place d'Italie, un jour comme les autres à Paris. Je me dis aussi que j'aurais pu décéder des suites d'un accident de la route en rentrant de vacances à une allure corbillarde. J'exclus l'accident du travail. Tu connais mon dégoût pour les 40 heures obligatoires. Le travail, on y va comme on va à la selle. Tu as remarqué l'angoisse devant la constipation? c'est la même que devant le chômage. On a déjà causé de tout ça. C'est bon gros. Je te laisse. J'ai pas tellement envie de rigoler. J'ai plutôt envie de chialer. La dignité, la volonté, la retenue, la virilité, l'honneur, le jeu de la carte à la belote, ce sont des muscles qu'on acquiesce en charentaise. Je suis triste parce que je suis incapable d'expliquer au Gus qui me garde le sens de mon engagement. Je suis désespéré parce que je n'ai pas assez vécu. Si je m'en sortais, je n'arrêterais plus de faire l'amour, je le ferais en crever. J'aurais voulu faire comprendre à mon petit soldat d'aujourd'hui son paquet de sèche, sa gourde d'eau, sa tablette de chocolat, son papier, son crayon sont plus importants pour moi que l'idée de la liberté et que cela s'appelle la fraternité. Gros, je t'aime bien, tu sais. Évite les balles assassines. Rentre à la maison et pense quelquefois à moi. Je t'embrasse, vieux frère. Nonos. PS, je n'y peux rien. Je meurs le cœur plein de haine et d'amertume.
C'est bouleversant, cette lettre. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous découvrez ce texte-là, Rossé?
J'arrête l'électrotechnique, je rentre à la fac de sociologie et une fois que je comprends les habitudes, que je comprends en fait un peu tous ces concepts qui me montent dans la tête, je me mets à dévorer plein de livres. Et donc il fait partie des premiers que je dévore. À l'époque, il y a Jean-Luc Enaudi, qui est un journaliste, qui est spécialiste du 17 octobre 61, qui passe pas mal chez moi pour voir mon père. Et il me parle de Georges Mattei. Ils ne s'aimaient pas, ils étaient en embrouille. Mais en réalité, Jean-Luc Enaudi admirait Georges Mattei, ils sont devenus ensuite assez proches et il a écrit un livre sur lui qui s'appelle Franc-Tireur où il raconte toute sa vie, une sorte de biographie.
Et vous, vous étiez en appétit de lire des textes sur la guerre d'Algérie, sur le 17 octobre 1961. Vous aviez la vingtaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait en termes de récit?
J'avais besoin, je pense, de me conscientiser, on va dire, de me politiser, et d'avoir des réponses. J'avais déjà plein de choses acquises, mais de manière un peu comme ça naturelle. Enfin, voilà, c'est l'héritage culturel sur lequel on ne fait pas d'efforts, parce que son nom l'indique, c'est un héritage culturel. J'avais besoin de faire des efforts.
Qu'est-ce que ça a changé?
Ça a changé que ça m'a rendu plus précis. Pour moi, je crée vraiment un mur entre la musique et ce qu'on acquiert de manière personnelle. Après, c'est un mur qu'on doit détruire. Mais pour moi, il est hors de question de lire un livre et ensuite d'essayer de le répercuter dans la musique. Sinon, il vaut mieux écrire des livres. La musique, pour moi, c'est de la sensibilité. Donc, on transforme sa sensibilité avec ce qu'on lit. On se crée différemment. Mais après, ça doit être dans cette sensibilité qu'on doit faire de l'art.
Et, ça vous a jamais tenté d'écrire des livres?
Franchement, j'y arrive pas.
Donc ça vous tente, mais c'est difficile.
C'est que si on enlève le rythme, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, en fait. Enfin, je veux dire, le rythme, il y a un rythme, hein.
Bien sûr.
Y a un rythme dans son livre. Hein. Mais si on enlève la cadence qui est celle du rap, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose.
À vous, quoi, pas au texte.
Ouais, exactement.
Je pense qu'il serait temps de reconstruire et de parler, de raconter, parce qu'il nous manque. Moi, je parle de mémoire en fragments. Pour les gens de ma génération, d'ailleurs une génération même avant la mienne, c'est-à-dire la première génération née en France, parce que moi j'ai un écart de génération avec mes parents, que je suis très préoccupée par ces questions aussi, mais il serait temps quand même qu'on se dise que nos histoires elles méritent d'être racontées et qu'on en a besoin pour que les choses soient plus simples, qu'on a besoin de savoir de ce qui s'est passé, à défaut d'avoir dans l'histoire, dans la mémoire collective et dans les livres d'histoire à l'école des choses qui nous concernent, on peut au moins faire parler nos parents et faire parler les témoins de cette histoire et écouter leurs récits et les inscrire quelque part.
Vous avez peut-être reconnu la voix de la romancière Faïza Guen. C'est une archive de 2020, au moment où elle sort son roman La Discrétion. Ça fait partie des textes que vous avez voulu partager avec nous, Rossé.
Ouais.
On l'entend dire « il serait temps, on a besoin ». Elle parle de sa génération, il se trouve qu'elle est un peu plus jeune que vous, si je ne m'abuse. Pourquoi est-ce que ce texte figure dans votre liste aujourd'hui?
Parce que, c'est le genre de livre qu'on lit, on se dit « bah ouais, c'est ça ». Dire que c'est comme si on parlait avec quelqu'un au comptoir ou enfin je sais pas où n'importe où et puis on se disait ah ouais non mais c'est bah ouais mais t'as raison et puis comme si il n'y avait pas grand chose à dire à part bah ouais évidemment et il y a un peu ça dans ce livre là alors par contre voilà il s'appelle La Discrétion donc c'est à dire qu'on se dit ouais évidemment mais c'est des choses qui sont rarement dites parce que la discrétion.
Peut-être on peut dire un mot justement de ce titre-là. Vous, il vous évoque quoi ?
Ben oui, il évoque ça. C'est la génération des parents, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai vu avec les miens. Mon père, voilà, c'est la plupart du temps de sa vie dans la clandestinité. Donc ça dit déjà ce que ça dit. Moi, j'ai toujours eu cette pudeur en tant que rappeur de me dire, ouais, faut pas que je l'affiche. Parce que lui, il a passé sa vie à pas vouloir s'afficher, faut pas que je l'affiche. Et donc, ben, ma mère, pareil. Et puis, après, quand j'ai fait le projet, par exemple, Parler d'années de la Terre, je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en réalité, même les victoires de cette génération-là sont vécues comme un tabou. Parce que, en fait, c'est une génération qui s'est dit, nos luttes sont nos luttes, on va pas mettre un fusil sur l'épaule à nos enfants dans leur éducation qu'on va leur donner. Eux, par contre, ils vivent dans un autre pays, ils vivent en France et ils vivent avec cette, il faut qu'ils vivent avec cette espèce de légèreté, pas avec nos tabous. Donc, en fait, c'est plus nous, en tant qu'enfants, qui allons poser des questions aux parents, et encore pas tous les enfants, en réalité, c'est pas si souvent que ça, et encore moins les hommes, enfin, c'est
les hommes enfants, vous voulez dire, ou les hommes les pères?
Enfin, les garçons. Mmh. Enfin, moi, je sais que j'ai une sorte un peu de pudeur à pas aller me poser les mêmes questions. Je l'ai peu fait. Par contre, quand je vois ma sœur, elle a réussi à écrire le livre sur mon père, parce que ça fait partie de son caractère, parce que plein de raisons. C'est pas seulement parce que je suis un garçon et c'est une fille, mais en tout cas, je pense et j'ai l'impression que nous, en tant que garçon, on va peut-être moins oser faire ce pas-là, d'aller poser des questions. Moi, je sais que j'en pose à ma mère, mais je vais pas le faire de la même manière, en fait. Donc, lire un livre comme ça, ouais, c'est précieux parce que, justement, la discrétion, parce que c'est des choses qui sont peu dites, parce que c'est des choses qui sont mises comme ça dans un livre noir sur blanc, on se dit, ouais, au moins, c'est marqué.
Surtout que la discrétion, ça a aussi été un endroit politique dans lequel on a tenu une certaine catégorie de personnes pendant très longtemps, si ce n'est encore maintenant. Ouais. Et le fait d'entrer en littérature peut changer le statut politique de certains êtres. Le personnage de Yamina n'est pas exactement la mère de Faizagen, mais elle dit elle-même, en parlant de l'écriture de ce texte, qu'elle a beaucoup questionné sa propre mère pour l'écrire. Est-ce que vous voulez bien nous lire l'extrait que vous avez choisi ?
En regardant cet immeuble se pavaner dans sa nouvelle peau, il s'est dit qu'il aimerait y rentrer un jour. Il pourrait s'asseoir au bar de l'hôtel et commander quelque chose, même un coca. Ça n'excéderait pas les 10 euros, ça ne lui coûterait pas plus cher qu'un paquet de cigarettes, après tout. Mais ce n'est pas une affaire d'argent. On pourrait encore en gagner davantage, que ça n'y changerait rien. C'est une frontière nébuleuse qu'il y a dans la tête et qui lui raconte qu'il ne peut pas rentrer au Lutetia. Omar a toujours senti ça. Comme si c'était à l'intérieur de ses veines ou dans son estomac. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Ce sont des choses faites pour les autres. Ceux qui ont déjà tout. Ceux qui ont toujours eu ces choses, sans avoir à les demander. Sans même les avoir désirées. Ces choses étaient là, pour eux, depuis le commencement. Et ils continuent, simplement, de suivre un vieux mouvement bien ordonné. Il faudrait qu'Omar le grave dans la pierre. Les autres, ils font à peine l'effort de nous exclure. Nous, nous le faisons très bien nous-mêmes. L'idée d'entrer dans cet hôtel chic lui a effleuré l'esprit. Ensuite, Omar a soupiré et a pensé à autre chose. Il porte un costume bleu nuit de chez Zara, parfaitement repassé. Il était enthousiaste le jour où il l'a acheté en boutique. Dans le miroir de la cabine d'essayage, il s'est trouvé beau. Ça lui donnait de la prestance. Comme tant d'autres chauffeurs Uber, il est mal payé et son enthousiasme s'est vite dissipé. L'aube pointe. On entend déjà les oiseaux. Il se dit qu'il prend là sa dernière course, à Sèvres-Babylone. À l'intérieur de la Renault Talisman, il n'y a ni bouteille d'eau, ni bonbons à la menthe, ni sapin parfumé. Ça fait belle lurette qu'Omar a cessé de réapprovisionner. Pour ce qu'il gagne, il ne va pas en plus payer de sa poche.
Vous avez dit aussi, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, plus que « ah oui, c'est ça, ah oui, c'est exactement ça ». Mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça produit que des vies, comme cette scène toute simple, soit dans les pages et qu'on puisse dire oui, c'est exactement ça.
C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. La première, je dirais, c'est déjà de valider qu'on est moins seul, qu'on est seul à penser des choses. La deuxième, c'est un sentiment, en fait, fierté, c'est pas forcément le mot, mais sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de communauté de vécu, mais ça crée une sorte de communauté de vécu. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, je reprends encore cette histoire du projet Parler d'années de la Terre. En fait, j'avais mis sur des murs, j'avais fait une exposition où j'avais mis des pochettes de disques venant j'ai fait une sorte de chronologie des émancipations Donc il y avait mai 68, etc. Mais il y avait aussi l'Empire Mandingue. Il y avait aussi mai 67, Guadeloupe. Il y avait aussi le disque de l'Algérie, les disques de Martinique. Et il y avait en fait les fraternités de ces luttes. C'est-à-dire que des labels ont fait le lien entre ces différentes luttes. Il y a des jeunes qui sont venus voir cette exposition. Et le fait de voir leurs origines sur les murs, sur une exposition, ils se sont dit, mais en fait, on fait partie de l'histoire. L'histoire n'est pas faite par d'autres, et surtout n'est pas, parce que là on parle de littérature, donc on parle de gens qui écrivent, l'histoire n'est pas que écrite par les autres, avec un grand A, l'histoire est écrite aussi par nous, et par nos semblables, et en fait, c'est à toutes ces entités, en fait, qui créons l'histoire. Et c'est ça, en réalité, aussi, qui est important, c'est que ces témoignages-là montrent ça. C'est-à-dire que cette différence, elle est là, elle est que là, on parle d'un livre qui s'appelle La Discrétion, écrit par Fezagen. On parle pas d'un humoriste qui est sur Netflix et qui va rigoler sur la banlieue, sur ci ou cela, et qui va faire de la caricature de telle ou telle chose vécue.
On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure de la dignité, d'une certaine manière.
Exactement, ça donne de la dignité.
Vous parlez beaucoup de ce projet Parler d'années de la Terre, on va en écouter un extrait. C'est Déménagement de Salah Sadawi.
Le pauvre, il mange rien. Allez, allez, adieu la France. Allez, adieu la France. Mon bonjour aux hommes bien. Mon bonjour aux hommes bien. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Le temps que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. En Algérie, où ça commence à aller très bien. 20 ans que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Je retourne en Algérie, ça commence à aller très bien. Bientôt je vous fais un pari, on sera mieux que les ricains. L'Algérie en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail y a plus tellement, il y a beaucoup de racistes.
I have this superstitious belief that
j'ai cette croyance superstitieuse selon laquelle la Providence ne vous place pas quelque part pour rien. Il y a une raison, un dessein, une utilité. À moins d'une catastrophe, c'est l'endroit où vous êtes censé être. On visite le monde, bien sûr. Il ne faut pas être ignorant du monde. Car comme on dit chez moi, un jeune homme qui ne voyage pas pense que sa mère fait la meilleure soupe du monde et qu'il n'a donc pas besoin de voyager. Mais à la fin du voyage, on revient. Et c'est le véritable sens du voyage, partir pour revenir.
Il y a beaucoup de racines.
C'est la voix du romancier Chinua Achebe, juste après cette chanson Déménagement de Salah Saadawi. Rossé, pour continuer avec vous de déballer votre bibliothèque, c'est un livre que vous avez choisi parmi les 5 livres importants que vous vouliez évoquer. Le livre s'appelle Tout s'effondre dans son titre français. C'est un roman qui est traduit de l'anglais nigérian par Pierre Girard pour les éditions Actes Sud. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de ce texte-là avant d'en lire un passage?
Oui, c'est en fait ce livre-là, je l'ai découvert assez récemment, hein, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Il m'a marqué par son écriture que je trouve super poétique, super douce aussi, pour décrire quelque chose de il n'y a pas plus douloureux, c'est l'effondrement d'une culture. J'ai trouvé ça mais vraiment super beau, et du coup je me suis dit voilà, il fera partie des livres.
Est-ce que vous voulez bien lire un extrait?
Ouais.
Donc on est dans le sud-est du Nigeria et les Britanniques colonisent.
Je suis peut-être resté trop longtemps absent, dit-il, comme pour lui-même. Mais je ne comprends rien à ce que tu me dis. Qu'est-il arrivé à notre peuple? Pourquoi n'a-t-il plus la force de se battre? On ne t'a pas dit comment les Blancs ont détruit Abam? Demanda Obierika. On me l'a dit, répondit Okonkwo. Mais on m'a dit aussi que les gens d'Abam étaient faibles et stupides. Pourquoi ne se sont-ils pas défendus? Ils n'avaient pas de fusils et de machettes. Nous serions lâches de nous comparer à eux. Leurs pères n'ont jamais osé affronter nos ancêtres. Nous devons nous battre contre ces hommes et les chasser du pays. Il est déjà trop tard, dit sombrement Obierika. Nos propres hommes et nos fils ont rejoint les rangs de ces étrangers. Ils se sont ralliés à leur religion et les aident à gouverner. Si nous voulions chasser les Blancs du Miofia, ce serait facile. Il n'y en a que deux. Mais ceux de notre peuple qui les suivent, à qui on a donné du pouvoir, ils iraient chercher des soldats à Umuru et il nous arriverait ce qui est arrivé à Abam. Il resta silencieux un long moment avant d'ajouter. Je t'ai raconté la dernière fois que je suis venu te voir à Mbanta qu'ils ont pendu à Neto. Qu'est devenu ce terrain qu'on se disputait? Demanda Okonkwo. Le tribunal du Blanc a décidé qu'il devait revenir à la famille de Nama, qui a donné beaucoup d'argent aux auxiliaires du Blanc et à l'interprète. Tu crois que le Blanc comprend notre coutume au sujet de la terre? Comment le pourrait-il, alors qu'il ne parle même pas notre langue? Mais il dit que nos coutumes sont mauvaises et nos propres frères qui ont adopté sa religion le disent aussi. Comment veux-tu qu'on se batte, alors que nos propres frères se sont retournés contre nous? Le Blanc est très habile. Il est arrivé avec sa religion, tranquillement et paisiblement. On s'est amusé de toutes ses sottises et on lui a permis de rester. Maintenant, il a conquis nos frères et notre clan ne peut plus rien faire. Il a posé un couteau sur les choses qui nous tenaient ensemble. Et on s'est écroulé.
Oui, vous le dites, c'est une langue qui est très poétique pour dire la cruauté de l'acte colonisateur. Rossé, tout à l'heure, vous évoquiez cette exposition où plusieurs luttes importantes étaient mises côte à côte. Ici, on est au Nigeria, c'est-à-dire qu'on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Martinique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'aller lire des situations qui pourraient paraître fort différentes et qui, en fait, ont des motifs ou ont des dynamiques comparables?
C'est parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe et que ça se passe de la même manière. Hein. C'est un peu les mêmes mécanismes et en fait, ce sont des logiques qui sont renversées. C'est-à-dire qu'un peu ce qui est dit aussi dans ce livre, c'est qu'une société qui s'est construite sur des décennies, sur des fois des millénaires, tout en bougeant aussi parce qu'elle n'est pas figée.
Figée non plus, ouais.
Ouais. Et avec des logiques propres. Comment une autre logique peut venir et les renverser de manière si rapide. C'est-à-dire, à un moment, je donne un exemple tout bête dont il parle dans le livre, un peu tous les rebuts de la société, ceux qui la dérangent, qui la gênent, etc. Il n'y a pas de prison, par contre, il y a la forêt. On va les mettre dans la forêt, ils sont condamnés à sortir, en fait, du cercle de la société et aller dans la forêt. Donc la forêt, elle est comme maudite. Mais en fait, quand les Anglais arrivent et qu'ils disent « Est-ce que vous auriez pas un bout de terre pour nous, pour qu'on s'installe ?» Donc ils disent « Allez dans la forêt ». En y croyant moyennement, parce qu'ils disent, ils vont pas aller dans la forêt, elle est maudite. Les Blancs s'installent dans la forêt et ils croisent, en fait, les gens qui sont un peu les rebuts et ils les nomment chefs. Et ils les arment, ils leur donnent des moyens, ils leur donnent une autorité et le monde s'est renversé. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est vécu dans énormément de régions du monde à partir du moment où il y a la colonisation.
C'est une destruction profonde de toutes les structures. Moi, ça me fait penser à des textes, mais d'ailleurs, qui sont parus quasiment dans les mêmes années, puisque ça, c'est un texte qui paraît en 2013 dans sa traduction chez Actes Sud, mais qui date de 1958. Je pense à des textes de Germaine Tillon qui analyse le démantèlement total de la société rurale en Algérie et comment la colonisation française a défait des tissus, des façons de vivre, des rapports rapport à la terre, à la montagne, aux animaux, et à laisser les choses effondrer, comme vous le disiez, finalement, comme le dit presque le titre de ce livre-là, tout s'effondre.
Exactement, exactement. C'est ça, c'est une autorité qu'on donne à des gens qui n'étaient pas censés l'avoir à la base, sur une légitimité d'une société qui est complètement inversée.
Et c'est un ordre qui s'effondre.
Exactement, exactement. Un ordre, un équilibre, des croyances. Coutumes, des croyances, tout. Tout.
On va aller vers une autre partie de votre choix, vers la poésie et vers la musique. On va y aller par un petit détour. On a été chercher la musique d'Archichep qui concluait un album voilà, très important dans votre discographie qui s'appelle Identité en crescendo. Tout se mélange dans cette bibliothèque Rosset, mais j'espère que tout se répond d'une certaine manière. La musique d'Archichep qui donc conclut un album important qui s'appelle Identité en crescendo, où finalement toutes les questions dont on parle là, en fait, elles sont aussi présentes, mais comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire transformées, imbibées, réécrites, rappées. Et on voulait aller avec ce morceau-là vers un autre continent, celui de la poésie, avec Henri Michaud. Tout à l'heure, vous disiez, finalement, quand je commence à lire, à l'entrée dans l'âge adulte, je commence par des choses très difficiles. On peut dire que Poteau d'angle, ça fait partie des choses qui peuvent paraître difficiles. Comment vous y accédez? Qui vous met ça dans les mains?
Une vieille dame chez qui je suis allé réparer une porte. Elle était libraire et elle m'a payé avec un livre, c'est un peu con.
Elle vous a dit quelque chose ou...
Non, mais je lui ai dit, conseille-moi un livre. Et puis elle m'a dit, tiens, prends ça, Henri Michaud, je pense que tu vas aimer. Mais elle ne me connaissait pas. Et franchement, elle m'a bien snipé.
Et vous l'avez lu, vous lui avez fait confiance tout de suite?
Déjà le livre, enfin, ça compte.
C'est petit.
C'est petit, il n'y a pas d'image, mais au moins c'est petit.
C'est un critère.
C'est un critère. Hein. Et puis c'est des paragraphes courts. Si je devais le dire avec mes mots, je dirais, il est plein de punchlines. C'est des paragraphes courts, plein de punchlines.
Vous écriviez déjà à l'époque?
Ah oui, mais moi j'écris depuis, j'ai commencé à rapper, je devais avoir 14 ans, donc je suis allé réparer sa porte, je pense que je devais en avoir 21-22.
Donc c'était déjà bien en route cette histoire.
Exactement.
Qu'est-ce que vous trouvez chez Henri Michaud?
Je trouve qu'il a une capacité à dire les choses avec beaucoup de poésie, des choses très simples, à dire avec beaucoup d'images. Donc j'ai pas envie de dire que ça ressemble au rap, ceci, cela, parce que on peut dire ça avec plein de gens et ça veut rien dire. Mais c'est vrai que c'est assez imagé et que en plus il arrive à ramener des mondes dans son monde. C'est-à-dire que des fois ça permet effectivement de nous faire voyager dans un ailleurs qu'est le sien.
Est-ce qu'on lit un extrait?
Ouais.
Donc c'est un extrait de Poteau d'angle.
Ouais. Dans la rue, dans ta rue. Dans la rue de tes représentations, de tes pensées à la volée. Pensées, décharges d'humeur. Dans la rue, sans pouvoir sortir, te croyant arrêté, assis ou étendu, immobile, te croyant dans une habitation, dans un refuge, mais en réalité dans la rue depuis ton premier cri de nouveau-né, découvrant ceci et cela, l'air, les pays et les langues et les personnes, recevant de tout, broyant n'importe quoi, faisant d'inutiles voyages, grands, agissant, petits, faisant ménage hâtif avec ce qui se présente, concevant mal, croyant t'arrêter, te reposer, te terrer, mais toujours pousser en avant, avec l'histoire, avec leurs histoires, dans la rue qui croise les leurs, qui en a croisé quantité, dans ta rue toujours, ah, c'est fini, ta rue ne va pas plus loin. 10 ans, la civilisation occidentale. Tu penses ta civilisation. Si tu demeurais seul sur Terre, quand même elle serait encore intacte, et même avec quelques-uns en ton genre, qu'est-ce que tu arriverais à en faire remarcher de ta civilisation ?
C'est marrant que vous choisissiez un extrait de poème d'Henri Michaux où il est tant question de la rue, parce que tout à l'heure vous disiez ça sert à rien de dire qu'il y a des ponts entre cette poésie-là et le rap, mais la rue est un motif tellement présent dans le rap français depuis le début, depuis 30 ans, que... on peut faire des ponts quand même. On peut se dire qu'il y a un continuum. Tout à l'heure, vous parliez de continuum entre des chants de protestation et des chants de lutte. Bien sûr que Henri Michaux n'est pas les rappeurs français des années 90 qui commencent à écrire. Néanmoins, il y a quelque chose qui peut sonner familier.
Ah ouais, bah c'est lui en fait qui m'a fait... après, il y en a eu d'autres, hein, des poètes que j'appréciais. Mais disons que moi, à la fin, quand je finis à lire, j'ai juste envie de dire « Boum !» Voilà, c'est-à-dire que voilà, ça me fait le même effet qu'un bon texte de rap, qu'une bonne punchline, ou avant de dire « Voilà, il l'a dit !» Et donc, effectivement, ouais, c'est ça que j'apprécie.
Ce sont qui les autres poètes qui vous ont fait cet effet-là ?
Alors, bonne question. Je pense à un poème qui s'appelle « La mort du loup » de Alfred de Vigny, du 19e siècle. Et en fait, c'est écrit en alexandrin. Et en fait, ce rythme-là me permet, moi, quand je fais des ateliers d'écriture, à amener, en fait, les jeunes qui savent très bien rapper, à les amener vers ça. Parce que, en fait, c'est écrit avec le même nombre de pieds qu'un certain rap qui va être posé sur un tempo, on va dire le tempo moyen du rap. En fait, je me suis rendu compte de ça. J'en parlais en fait avec un ami linguiste qui est décédé, appelé Jacques Courcil, et il disait en fait l'alexandrin ou le rap ou la stance, comment écrit Renaud, enfin le fait de mettre à peu près
les mêmes pieds,
c'est aussi, ça va aussi avec le souffle. C'est-à-dire que pourquoi c'est 6, 12, enfin 12, mais on va dire on peut le diviser par 2, etc. C'est parce que en fait ça va avec le souffle quand on parle même. On va être entre 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds, parce que ça va avec le souffle. Et en fait, c'est plutôt naturel. Donc, c'est pas pour rien que tout s'est fait à peu près de cette manière-là, partout. Et donc, on parlait de ça, et du coup, ça m'a ramené à aussi à une certaine poésie, et c'est quelque chose, des fois, que j'ai eu envie de faire découvrir.
Oui, parce que vous disiez, oui, vous avez beaucoup dit qu'il y avait un mur très bien construit et très solide entre votre pratique de la musique et votre pratique de la lecture. Mais quand vous faites des ateliers avec ces jeunes gens, vous n'avez pas envie de temps en temps de leur mettre 2-3 livres dans les pattes?
En fait, ce mur-là, ce que je veux dire par là, quand je parle de ce mur-là, c'est qu'on lit, en fait, on reçoit. On reçoit, on est en train de recevoir. Qu'on écrit, on donne. Qu'on rappe, on donne. Et en fait, c'est ce mur-là dont je parle. C'est-à-dire que je me remplis quand je lis quelque chose ou que j'apprends quelque chose, je sais pas, même si je regarde un documentaire, peu importe, je me remplis de quelque chose. En fait, il y a une différence entre le renvoyer comme un miroir et en faire une œuvre d'art. C'est de ce mur-là dont je parle. C'est,
donc, il faut transformer.
Voilà, il faut transformer. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, il y a un mot à ça, c'est rendre les choses plus simples, simplifier les choses, etc. Mais c'est, à ce moment-là, je vais pas me sentir artiste si je fais juste ça. Je veux transformer les choses, je veux y mettre ma sensibilité. J'ai besoin que ça vibre d'abord. Et une fois que ça vibre, et que là, j'arrive à le transformer en quelque chose d'autre, là, je me sens artiste. Et pour ça, j'ai besoin d'être dans l'action. J'ai besoin, en fait, de renvoyer quelque chose. J'ai besoin d'être debout. Alors que quand je reçois, je peux être assis. C'est la différence.
Le dernier texte que vous vouliez évoquer avec nous s'appelle « Free Jazz Black Power ». C'est un texte de Philippe Carle et Jean-Louis Comolli qui a été publié en 1971. J'ai l'impression qu'on l'entend dans le titre. Il vient comme ça faire se rencontrer deux mouvements très importants, à la fois musicaux et de combat politique. Est-ce que vous voulez d'abord nous lire un extrait ou nous dire pourquoi vous l'avez choisi ?
Pareil, il fait partie des livres qui m'ont donné envie de lire, tout simplement. Et c'est aussi un livre qui m'a donné envie d'écouter du jazz, parce que c'est compliqué d'écouter du jazz. D'autant plus du free jazz. c'est encore plus compliqué.
Il faut être motivé.
Il faut être super motivé. C'est ça, exactement. Et je suis pas quelqu'un qui cherche à être motivé, en fait, si ça me sert à rien. Et donc là, en fait, ce livre m'a donné envie. C'est ce livre qui m'a donné envie de rentrer là-dedans. C'était ma porte d'entrée avec aussi, bien sûr, 2-3 morceaux de musique. Mais j'ai énormément apprécié ce livre parce que toutes les questions que je me posais, moi, en tant que rappeur, j'ai eu les réponses dans ce livre.
Alors que c'était des musiciens de free jazz qui vous avaient précédé de bien des
exactement,
décennies.
Exactement, exactement. Donc en fait, voilà, en fait, dans les questions qu'on se pose, on se rend souvent compte qu'on n'a rien inventé. Et voilà, il y en a qui se sont posés les mêmes et qui ont même eu des réponses, et elles sont intéressantes.
Vous nous lisez un extrait ?
Ouais. De fait, nombre de musiciens free affirment qu'il n'est pas nécessaire pour jouer de la musique afro-américaine de passer par l'enseignement académique occidental. Leur but n'est pas de jouer les œuvres des compositeurs classiques européens, mais de jouer, créer leur musique. D'où une utilisation souvent fort peu orthodoxe des instruments, un besoin de dépasser les limites instrumentales imposées par les normes occidentales. Ce qui était accident, exception, devient nouvelle possibilité sonore. Les sifflements d'anches, gommés hier des enregistrements de Charlie Parker, en tant que défaut ou erreur, sont acceptés, valorisés, comme partie intégrante du discours. Les effets de souffle, les bruits considérés jusqu'alors comme parasites de la pureté sonore sont exploités, travaillés. Un ailleurs, registre suraigu, bruit incongru, choc des clés du saxophone, etc. Du champ d'action, habituel et sans cesse sollicité. Les cordes du piano sont frappées directement, sans passer par l'intermédiaire du clavier. Celles de la contrebasse vibrent sous les coups d'archer. Les sons, affirme Ayler, deviennent plus importants que les notes. Et le musicien semble se moquer désormais qu'elles soient jugées bonnes ou mauvaises. Cris, bruit, choc, grognement, grincement, tous les effets inframusicaux participent du discours de l'improvisateur.
Merci beaucoup, Rosset. C'est sur ce texte-là qu'on va sortir de votre bibliothèque. Un très grand merci pour le partage.
Merci, merci à vous.
The beat has a rich and magnificent history. Of adventure, excitement, and mystery. Some of it bitter, and some of it sweet, but all of it part of the beat, the beat, the beat. They say it began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu,
vous retrouverez toutes les références des textes évoqués par Rosset sur la page du bookclubfranceculture.fr et sur cette page, vous trouverez aussi tous nos portraits de bibliothèque. Au son, c'était Alexandre Dang, à la réalisation de cet épisode, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.